Israël au programme de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 14 février 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, 7 soldats sénégalais ont été libérés en Gambie par des rebelles de Casamance. Au Zimbabwe, 135 000 enseignants ont été suspendus pour avoir réclamé une hausse de salaire. Au Canada, le pont ambassadeur, axe stratégique entre les États-Unis et le Canada, a rouvert après 7 jours de blocage par des manifestants opposés aux mesures sanitaires. Crise autour de l'Ukraine, les appels au dialogue se multiplient alors que la crainte d'une invasion russe persiste. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Dans le sud du Sénégal, des rebelles de Casamance sont libérés aujourd'hui. De l'autre côté de la frontière avec la Gambie, les 7 soldats sénégalais qu'ils retenaient prisonniers depuis un affrontement meurtrier le 24 janvier. Le point avec Eric Manirakiza.
Les 7 soldats sénégalais, membres de la mission militaire ouest-africaine en Gambie et Comig, ont été convoyés par des rebelles en un lieu proche du village gambien de Badjagar. Ils ont été accueillis par des représentants de la CDAO, de l'armée gambienne et d'une organisation catholique italienne San Egidio qui assure la médiation entre le gouvernement sénégalais et les rebelles de Casamance. Les ex-otages sont par la suite partis à bord de véhicules de la Croix-Rouge. Ils ont été capturés au cours d'un affrontement le 24 janvier par des hommes du mouvement des forces démocratiques de Casamance. 4 soldats sénégalais avaient été tués selon l'armée sénégalaise. La Casamance est le théâtre d'un des plus vieux conflits d'Afrique depuis que des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche en décembre 1982. Le Sénégal s'emploie à normaliser la situation et a entrepris de réinstaller les déplacés.
Le gouvernement malien a enregistré depuis fin janvier plusieurs défauts de paiement sur le marché financier régional, selon l'UEMO à titre qui gère les opérations sur les marchés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le montant total de non-paiement des sommes dues s'élève à 53 milliards de francs CFA. Au Soudan, un manifestant a été tué par balle lundi à Khartoum lors de rassemblements contre le putsch militaire. Le manifestant a été touché au cou et à la poitrine par des balles réelles tirées par les forces de sécurité, a indiqué le Comité central des médecins soudanais, un syndicat pro-démocratie. Ce décès porte à 80 le nombre de manifestants tués depuis le coup d'État militaire le 25 octobre dernier. Au Zimbabwe, de nombreuses écoles sont à l'arrêt ce lundi après la suspension par le gouvernement de quelques 135 000 enseignants qui ne se sont pas présentés à la rentrée des classes la semaine dernière pour dénoncer les bas salaires. Les précisions avec John Lindon.
Les profs zimbabwéens gagnent quelques 90 euros par mois, même pas de quoi payer les trajets entre leur domicile et les écoles, selon certains d'entre eux. Le ministère de l'Éducation a suspendu jeudi 135 000 enseignants qui ne sont pas venus pour la rentrée des classes. Quelques 150 000 personnes travaillent dans les écoles publiques, selon les syndicats. Le gouvernement a fermé les écoles en suspendant plus de 90% des professeurs, souligne le président du syndicat progressiste des enseignants. Dans la capitale Harare, plusieurs écoles sont restées vides, sans élèves ni enseignants, tandis que dans d'autres, des élèves sont désœuvrés ou jouent dans les cours des récréations. Le conflit salarial entre enseignants et gouvernement dure depuis que l'État a décidé il y a 3 ans de verser les salaires non plus en dollars américains, mais dans la monnaie locale fortement dévaluée par une inflation galopante. En septembre 2020, les enseignants avaient déjà lancé un mouvement similaire. Les grèves d'enseignants, d'infirmières et de médecins pour réclamer de meilleurs salaires sont fréquentes au Zimbabwe. Son économie est en récession depuis plus de 10 ans.
Au Ghana, un militant politique, Oliver Barker Fomawo, a été mis en examen aujourd'hui pour trahison par la justice qui lui reproche d'avoir écrit sur les réseaux sociaux vouloir organiser un coup d'État si le gouvernement ne renonçait pas à un projet de loi controversé. Oliver Barker Fomawo a été arrêté vendredi à l'aéroport d'Accra, la capitale, après avoir dirigé le mouvement mouvement de contestation « Fix the country », c'est-à-dire « réparer le pays ». La Cour pénale internationale, la CPI, a entamé ce lundi à La Haye les débats devant déterminer si Dominique Ongwen, un des principaux chefs de la brutale rébellion ougandaise de l'armée de résistance du Seigneur LRA, peut faire appel de sa condamnation à 25 ans de prison. Monsieur Ongwen, enlevé vers l'âge de 9 ans par le groupe dirigé par Joseph Kony, a été déclaré coupable en 2021 de 61 chefs de crimes de guerre et contre l'humanité, dont celui de grossesse forcée, une première pour la CPI, mais aussi de meurtre, viol, esclavage sexuel et enrôlement d'enfants soldats. Un tribunal algérien a condamné aujourd'hui par contumace l'ex-ministre de l'énergie, Chakib Khalil, en poste pendant 10 ans sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, à 20 ans de prison pour corruption selon les médias algériens. Chakib Khalil devra en plus payer 12 500 € d'amende. L'ancien patron du géant public des hydrocarbures Sonatra, Mohamed Miziane, jugé lors du même procès, a été condamné à 5 ans de prison et 6 250 € d'amende. Des dizaines de réfugiés soudanais et d'Afrique subsaharienne ont protesté aujourd'hui dans le sud de la Tunisie contre leur marginalisation et réclamé leur évacuation vers d'autres pays. Ces réfugiés observent depuis plusieurs jours un sit-in devant le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Zarsis, dans le sud-est de la Tunisie. La majorité de ces migrants ont été secourus au large de la Tunisie après le naufrage des embarcations qui les transportaient pour tenter de regagner l'Europe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Canada, les manifestants opposés aux mesures sanitaires poursuivent ce lundi leur occupation de la capitale Ottawa, mais le pont ambassadeur axe stratégique entre les États-Unis et le Canada a rouvert après 7 jours de blocage. Les précisions de Nani Talani.
Le pont ambassadeur est maintenant entièrement ouvert, permettant à nouveau la libre circulation du commerce entre les économies canadiennes et américaines, a indiqué la société exploitante du pont. Les services frontaliers canadiens ont confirmé que les opérations normales ont repris au pont ambassadeur, mais que les voyages non essentiels sont déconseillés. Il a fallu 2 journées à la police canadienne pour parvenir à évacuer ce pont qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Detroit, bloquée depuis lundi dernier par des manifestants. La police a indiqué qu'entre 25 et 30 protestataires ont été arrêtés. Le mouvement des convois dits de la liberté est entré dans sa 3e semaine au Canada et a fait des émules en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le premier ministre de l'Ontario a annoncé aujourd'hui que le passeport vaccinal serait levé dans sa province, épicentre de la contestation anti-mesures sanitaires depuis fin janvier. Et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, doit s'exprimer aujourd'hui dans l'après-midi. Crise entre la Russie et l'Ukraine, les appels au dialogue se multiplient. Alors que la crainte d'une invasion russe persiste, Moscou calme le jeu et annonce la fin de certaines manœuvres militaires. Le point avec Mouamadou Mfa.
Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé qu'une partie des manœuvres militaires en Russie et au Bélarus arrive à leur fin. Le ministre ukrainien de la Défense a salué un entretien téléphonique positif avec son homologue bélarusse alors que le Bélarus mène les exercices militaires conjoints avec la Russie. L'Ukraine a demandé une réunion urgente avec la Russie et les autres pays de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, accusant Moscou de ne pas partager les informations sur les déplacements de troupes russes près de sa frontière. Il existe une chance de régler la crise par la voie diplomatique, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui ajoute que Moscou est prêt à écouter des contre-propositions sérieuses. En visite à Kiev, le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé à la Russie de saisir les offres de dialogue. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, est attendu demain mardi à Kiev pour aider à trouver une solution à cette crise.
Les dirigeants de l'Union européenne pourraient se réunir jeudi en marge du sommet avec leurs homologues de l'Union africaine en fonction de l'évolution de la crise entre l'Ukraine et la Russie. La décision revient au président du Conseil européen, Charles Michel. Un point d'information est prévu sur les résultats de la rencontre mardi entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président Vladimir Poutine à Moscou, et un sommet européen exceptionnel est possible en fonction de la situation, a indiqué un responsable européen. Les négociations négociations visant à remettre sur les rails l'accord sur le programme nucléaire iranien ne sont pas dans l'impasse, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à Téhéran. Cette mise au point intervient quelques heures après qu'Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil de sécurité iranien, a estimé que les progrès dans les discussions devenaient plus difficiles à chaque minute. Vous écoutez VOA Afrique, c'était tout pour le journal. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
En République démocratique du Congo, la société minière publique la GECAMINE et la société canadienne Ivano ont signé un accord pour développer la mine de zinc de Kipushi dans le Haut-Katanga afin de la remettre en production commerciale. Selon Reuters, l'entente définit les conditions commerciales d'un nouvel accord de co-entreprise. Kipushi aura une teneur moyenne de 36,4% de zinc au cours des 5 premières années de production. Au Congo-Brazzaville, le nouveau plan national de développement 2022-2026 a fixé ses dépenses d'investissement à 8 987 milliards de francs CFA. Le programme ne dispose que de 2161 milliards de francs CFA, soit 24% de ressources disponibles. Le gouvernement compte mobiliser les fonds manquants auprès de ses principaux partenaires publics et privés, selon les dépêches de Brazzaville. Le PND est un programme quinquennal à vocation économique qui repose sur les activités agricoles, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les zones économiques spéciales. Pour terminer, en Angola, le procès de l'homme d'affaires Carlos Manuel de São Vicente, proche de l'ex-président José Eduardo dos Santos, est accusé d'avoir détourné 790 millions d'euros, s'est ouvert devant le tribunal de Luanda. Il est poursuivi pour détournement de fonds, acceptation d'avantages, corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent. De São Vicente est accusé d'avoir obtenu frauduleusement des parts d'une compagnie d'assurance et bénéficié illégalement de contrats d'assurance dans l'industrie pétrolière, notamment auprès de la compagnie pétrolière publique Sonangol.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Football, avec la reprise des matchs interclubs sur le continent, la première journée de la phase de groupe s'est disputée le week-end écoulé. En Ligue des champions, dans le groupe A, mauvais départ pour les Guinéens du Oroya battus à domicile par les Algériens de l'entente de Sétif 1-0. Bon départ par contre pour les Mamelodi Sundowns, vainqueurs des Soudanais d'Al Hilal 1-0. Dans le groupe B, l'autre club sud-africain d'AmaZulu s'est incliné sur le même score à Casablanca. Devant le Raja, l'Espérance de Tunis a réalisé le carton plein dans la poule C 4-0 face au Botswanais de Galaxy. Belle entame aussi hein, pour les Marocains du Wydad de Casablanca, victorieux 3-0 des Angolais de Sagrada Esperança. Première journée de la phase de groupe en Coupe CAF également, le TP Mazembe réussit son entrée. Les Corbeaux ont réalisé le minimum 1-0 face aux Congolais de Brazzaville de l'AS Otowodoyo, 0-0 entre les Égyptiens d'Almasri et les Camerounais de Coton Sport de Garoua. La Renaissance sportive de Berkane a souffert mais s'est imposée 5-3 devant les Nigériens de l'US Gendarmerie Nationale. Les Tanzaniens de Simba ont battu les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan 3-1. Ici, aux États-Unis, le 56e Super Bowl entendait la finale de la NFL. La Ligue professionnelle de football américain a eu lieu hier au SoFi Stadium à 5,5 milliards de dollars, rempli par 70 000 spectateurs. Les Rams de Los Angeles ont remporté le deuxième Super Bowl de leur histoire en battant 23-20 les Bengals de Cincinnati au terme d'une finale au suspense insoutenable. Nanit Talani.
Le toucher gagnant a été inscrit par Cooper Kupp à 85 secondes de la fin. Le receveur des Rams a capté 4 passes et a été désigné MVP, meilleur joueur de la finale. C'est le premier championnat des Rams depuis leur retour à Los Angeles en provenance de Saint-Louis dans le Missouri, le deuxième de l'équipe après une victoire en 2000. Les supporters des Rams en sont très ravis. Les Rams succèdent au palmarès aux Buccaneers qu'ils ont éliminé mi-janvier, accélérant sans le savoir le départ à la retraite du légendaire Tom Brady, septuple champion. Fait historique, le coach des Rams, Sean McVay, est devenu le plus jeune entraîneur à remporter un Super Bowl à 36 ans. Pour Cincinnati, cette défaite en finale est la troisième après celle concédée en 1982 et 1989. Celle-là est probablement la plus dure à encaisser.
Merci Nanit, toujours ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en basketball. Boston a porté sa série de victoires à 8 en battant Atlanta 105-95 et Minnesota s'est imposé devant Indiana 129-120 lors des deux seuls matchs de NBA.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Saint-Valentin oblige, on commence par la vie amoureuse des couples qui s'effritent de plus en plus rapidement après le mariage. Certains couples se séparent au bout d'un an de relation, souvent même juste après un mois. En ce jour dédié à l'amour à travers le monde, Aïcha Diarra, notre correspondante en Côte d'Ivoire, a tendu son micro à deux dames avec leur époux afin qu'elles partagent avec nous leurs expériences.
J'ai souvenance que quand je partais me marier, ma mère souvent lui disait « Ici, c'est chez moi, monsieur, madame Soumaoro. Quand tu vas maintenant chez monsieur Bakayoko, chez toi, c'est là-bas. » Donc, n'imagine pas que quand ça va chauffer un peu, tu vas courir, venir, prendre tes bagages. Je vais te fermer la porte parce que je veux que tu vives complètement ton foyer, que tu t'investisses sans penser qu'il y a forcément un espace où tu pourras te réfugier sans faire d'efforts. Et donc quand je partais, je me disais que je devais prouver à ma mère que je pouvais tenir, mais également rendre hommage à cet homme-là qui m'a aimé.
Tel est le résumé de sa vie de couple que Mawa Soumaoro, épouse Bakayoko, nous fait. Elle qui a fait ses premiers pas dans son foyer avec un avertissement très clair de sa mère. 29 ans plus tard, avec 3 enfants, elle nous donne un principe fondamental de son couple, en plus d'une bonne communication dans le foyer.
Dans mon couple, il y a un seul capitaine. C'est mon homme. À partir du moment où vous donnez la place de justement de commandeur à cet homme-là, évidemment, il vous donne également vous votre place.
En plus de lui octroyer ce caractère de chef suprême dans le foyer, Madame Koulibaly Assita épouse Gbon, qui a connu 35 ans de vie commune avec son époux avant qu'il ne décède, demande aux femmes de retirer la fidélité de l'homme de leur principe de vie.
On ne peut pas demander à un homme d'être fidèle. C'est impossible. Si tu vas sur cette base, tu feras un très bon mariage. Mais si tu dis tu vas compter tous les petits passerelles de ton mari, tu vas avoir ulcère, tu vas mourir tôt. Parce que c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas forcément le mari qui va chercher. Hein. Ce sont les femmes qui cherchent les maris aujourd'hui. Si ce n'est pas dans ta maison, là, il faut laisser. Et puis toi-même, en te comportant comme ton mari, on aura peur que tu vois les conneries qu'il fait. Il aura peur même.
En plus, il faut s'armer de beaucoup de patience pour un foyer stable.
Je suis toujours passé par la communication. Je suis toujours passé par la patience. Je me dis, on ne peut rien réussir dans la colère. Tout ce que tu fais dans la colère, c'est toujours des regrets qui viennent après.
Le mariage, c'est pour la vie, nous dit Mawa Soumaoro, épouse Bakayoko.
Il ne faut pas se marier pour la mode. Aujourd'hui, on voit tellement de beaux mariages organisés. Je dirais les wedding planners qui vous font rêver. La célébration du mariage, si ça a trop duré, c'est une semaine. Mais la vie, c'est plus long. Donc, il faut se projeter d'abord sur la longueur du mariage que sur la durée de la fête.
Une femme propre, ça garde mieux son homme, nous dit Koulibaly Assita, épouse Gbon.
Un jour, mon mari m'a dit que lui, il va partout, chez ses amis, chez ses camarades. Que mais chaque fois, quand il va dans un foyer, qu'il constate qu'il y a quelque chose qui est chez lui qui n'est pas là-bas. J'ai dit comme quoi? Il dit la propriété, par exemple. Chaque chose a sa place. Que lui, il peut venir avec des amis chez moi sans me prévenir. Mais toutefois qu'il vienne, que lui n'a rien à dire. Que mais il se sent obligé de me dire, parce que malgré les années de mariage, il voit que c'est toujours la même chose.
Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Gabon, l'heure est à la reprise progressive des activités culturelles. Les salles de spectacle du pays sont restées vides pendant 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus. Tout au long de ce mois de février, Libreville abrite la 2e édition du festival Black History Arts. L'événement prévoit des ateliers sur l'éducation, le chant, la danse urbaine et les conférences débats sur la culture noire. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Selon les promoteurs de ce rendez-vous culturel, la 2e édition du festival Black History Art propose une réflexion sur la place de l'art et de la culture noire pour contribuer au développement du patrimoine gabonais. Malvina Leslie Nyanzé est coordinatrice du festival Black History Art.
Nous sommes dans une société où on n'a plus d'identité, surtout par rapport à notre histoire qui est liée à la colonisation, à l'esclavage. Nous pensons que notre identité culturelle a été impactée par toutes ces choses, donc le festival a pour intérêt de se réapproprier notre culture noire.
Ce festival est aussi une invitation au partage du savoir artistique avec des ateliers dont celui qui passe en revue les grands acteurs de l'histoire du slam comme Mark Ely Smith, Don Lupiano, artiste, auteur, compositeur et interprète.
Donc bien avant Mark Ely Smith, le slam s'est déclamé déjà avec les mouvements de la ségrégation. À cet instant-là que Mark Ely Smith a fait ses tours dans ces rues-là, et il a vu la performance de certains poètes, et il a pu maintenant la canaliser, en faire de ça l'art disciplinaire qu'on appelle aujourd'hui le slam.
En dehors des slameurs appelés aussi les acrobates de la rime, le site de commémoration de la culture noire accueille d'autres acteurs culturels de la capitale gabonaise. Corim King est un artiste peintre très engagé dans la préservation de l'environnement.
Tant petit, j'étais au contact de l'histoire de Kolo, la tortue et la panthère. Et aujourd'hui, ces animaux sont carrément la zone rouge. Et moi, en tant qu'artiste, c'était mon devoir de mettre ça sur la table de façon artistique pour qu'ils ne puissent pas disparaître.
Carrefour éducatif, le festival Black History Art a pour mission d'aider la jeunesse du pays à se questionner sur l'art et son histoire. La marraine de l'événement est presque éblouie par son organisation. Justine Mitza, écrivaine.
C'est-à-dire, on ne peut rien sans formation. Ici, il est question d'initier les jeunes à l'éducation artistique, comment créer. On leur donne les armes, les outils pour pouvoir participer à la production.
Au programme dans quelques jours, la littérature et le théâtre, une conférence présentera un panel d'auteurs dont les œuvres ont impacté de façon concrète l'histoire des Noirs à travers le monde, surtout que le mois de février aux États-Unis est le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Des milliers de Libériens ont célébré ce lundi le deuxième centenaire de l'arrivée des premiers esclaves affranchis d'Amérique pour constituer ce qui sera plus tard le Libéria. Des descendants d'anciens esclaves américains ont dirigé le Libéria jusqu'à l'assassinat en 1980 du président William Tolbert lors d'un coup d'État dirigé par Samuel Doe. Ce sergent de l'armée est membre de l'ethnie Crane, la population autochtone différente des descendants d'anciens esclaves. La célébration en grande pompe cache mal l'histoire douloureuse et sanglante qui a ponctué la vie de ce pays. Pour en parler, Abdourahman Diab, adjoint à New York, l'historien Mohamed Mboj de Manhattanville College.
L'idée avait déjà en fait une sorte d'application, en particulier durant la période révolutionnaire américaine, où des Noirs loyalistes à l'Angleterre, à la fin donc du conflit, avaient été établis au Canada, mais aussi dans une partie de Londres, dans un quartier de Londres, East London, et aussi dans le territoire africain, dans une ville africaine en fait, appelée Freetown. Donc il y avait déjà cette expérience où des Noirs américains, dans ce cas-ci, qui étaient loyaux à l'Angleterre durant la guerre d'indépendance, ont été rapatriés en Afrique. Les Noirs n'ont jamais perdu espoir d'avoir leur propre patrie. Et évidemment, ce qui vient à l'esprit, c'est de retourner là d'où ils sont venus.
Mais on sait un peu aussi que l'histoire du Libéria, l'histoire politique, hein, a été un peu mouvementée et sanglante même, surtout dans les années 80. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors que c'était présenté peut-être comme un modèle, le retour des esclaves affranchis.
Simplement parce que ceux qui sont retournés, entre guillemets, ne sont plus africains. Je mets ça entre guillemets, bien entendu. C'est la même couleur de peau, mais ils ont déjà été américanisés ou anglicisés, dépendant de la période dont on parle. Et donc, ont acquis des réflexes, des habitudes, et en particulier une religion qui faisait que c'était très différent par rapport à la population environnante. Donc, la mission civilisatrice qu'ils ont en tête, c'est ça qui va faire problème, où fondamentalement, ils pensent qu'ils sont supérieurs, que tout ce qu'ils font est positif. Et en fin de compte, ils vont créer un régime où ils vont confisquer le pouvoir tant politique, économique que social.
Aujourd'hui, on voit une certaine forme de retour aussi depuis 2 ou 3 ans, surtout avec le Ghana. Est-ce que c'est comparable à ce qu'on a vu au Libéria ou bien c'est une nouvelle forme de retour aux sources pour les Africains-Américains?
Oh, c'est très différent. Ceux qui veulent retourner, certains se présentent un peu comme des exilés politiques. Ils ne peuvent pas vivre leur vie, ils ne peuvent pas vivre leur liberté aux États-Unis à cause des barrières raciales. Donc, ils vont en Afrique, mais il n'y aurait pas de barrières raciales pour être un peu plus libres. Donc, c'est un peu le contraire ici. Deuxièmement, ils ne sont pas porteurs d'un projet de société qui prône la supériorité des valeurs de l'Occident par rapport à des valeurs africaines. En réalité, ils veulent se réinsérer dans un milieu où ils pensent qu'avec la couleur de leur peau, ils vont passer inaperçus. Et avec les talents qu'ils apportent, ils vont pouvoir réussir. Ils vont pouvoir aussi faire avancer la société à travers les réussites personnelles. Donc, c'est complètement différent du projet libérien.
C'était le professeur Mohamed Mbodj de Manhattanville College.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le bicentenaire de l'arrivée des premiers Noirs d'Amérique sur ce territoire qui deviendra plus tard le Libéria. Ces esclaves affranchis sont arrivés sur les côtes africaines le 14 février 1822 dans le cadre d'un mouvement de retour vers leur terre d'origine lancé aux États-Unis. Mais le Libéria a connu une histoire politique mouvementée et des relations heurtées entre autochtones et ceux qui s'y sont nouvellement installés. Quelles leçons tirer du Libéria? Vers quel type de relation entre l'Afrique et sa diaspora? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ici aux États-Unis, le 56e Super Bowl, entendez la finale de la NFL, la Ligue professionnelle de football américain a eu lieu hier au SoFi Stadium rempli par 70 000 spectateurs. Les Rams de Los Angeles ont remporté le 2e Super Bowl de leur histoire en battant 23-20 les Bengals de Cincinnati au terme d'une finale au suspense insoutenable. Ce sport très populaire aux États-Unis peine à s'exporter surtout en Afrique. Pour une analyse, Yakuba Ouedraogo a joint en Virginie notre collègue Roger Montou, un féru de NFL.
J'ai été dans le lycée il y a plusieurs années, un assistant coach de ce sport-là. Alors Yakuba, je dois vous dire que ce sport coûte d'abord extrêmement cher. C'est pas juste un sport où on achète un ballon et on joue. Non, il y a l'équipement parce que c'est quand même un sport qui est dangereux. Et donc, les joueurs doivent être bien protégés et ces équipements coûtent trop cher. Et dans un jeu, ces équipements peuvent déjà se détériorer. Donc, il faut encore en acheter et ça coûte tellement cher. Ça, c'est déjà un fait qui fait à ce que ça devient un peu difficile que ce jeu soit exporté dans d'autres pays. Mais il faut aussi dire que c'est un peu une tradition, Yakuba, une tradition américaine qui a commencé vers les années 60, mais qui a vraiment pris de l'ampleur, même ici aux États-Unis, vers les années 1970. Donc c'est devenu alors une culture un peu américaine, une tradition où les gens ne vont pas seulement pour regarder vraiment le match. Et moi, je pense même que le match vient en deuxième position parce que ça devient une tradition où les familles se rencontrent ces jours-là avec des amis pour passer une bonne ambiance en regardant le sport.
Ce qu'on remarque aussi, c'est que pendant la mi-temps de la finale, il y a toujours ce show purement à l'américaine. Il y a aussi la publicité. Qu'est-ce que cela rapporte?
Que ça représente beaucoup ce jour-là. Et d'ailleurs, les publicités coûtent cher. Ça coûte tellement cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre ce match. Et du coup, il y a des pubs. Ces gens qui créent ces publicités deviennent plus créatifs. Et ça amuse tellement le public qu'ils attendent impatiemment de voir ces publicités-là. Mais aussi, le halftime, qui est la mi-temps, ils attendent aussi pour voir qui va chanter ce jour-là? Qui a été invité? Et hier soir, on a pu voir, Yakuba, que c'était le tour des rappeurs. Et les rappeurs américains, ils ont une certaine relation avec le football américain. Et hier, on a invité Dr. Dre, qui est un grand qui n'est plus à présenter dans la culture musicale américaine. Et donc, il est venu non seulement seul, mais il a amené des grandes têtes du rap. Il a amené Snoop Doggy Dogg, il a amené Eminem, et même 50 Cent qui est apparu. C'était phénoménal. Encore une fois, ça aussi, ça fait partie de la culture américaine, Yacouba.
C'était Roger Moutou de la VOA, joint en Virginie. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, un grand merci à toute la rédaction. Bonne fête de Saint-Valentin à tous.